Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe, la seule source de frissons sur le FM de Québec, l'émission à partir de laquelle on flirte avec le paranormal, on explique l'inexpliqué, on explore l'inexploré. Ce soir sur Fréquence d'Outre-Tombe, on a une sorcière qui s'en prend à une pauvre famille. Mais pour l'instant, comme je vous le disais, vous pouvez me contacter à outretombe.ckrl@gmail.com ou au 418-640-1586 pour me raconter vos histoires, vos témoignages. Et j'ai justement ici un courriel que j'ai reçu dans la dernière semaine de Simon de Limoilou, Simon qui vient de déménager à Limoilou. Donc, je vous lis ça à l'instant. Premièrement, félicitations pour ton émission. J'adore écouter. C'est divertissant, épeurant et surtout différent. Ben merci Simon pour ses commentaires. Donc on y va avec l'histoire, ça dit ceci. Premièrement, je tiens à mentionner que j'ai toujours eu malgré moi une genre de sensibilité au paranormal. Je viens de déménager dans Limoilou cet été. Dans les premières nuits, toujours vers la même heure, dans le milieu de la nuit, j'entendais toujours un bruit, un genre de grincement. Je pensais que c'était peut-être un voisin, rien de spécial. Un soir, je me fais réveiller dans le milieu de la nuit par le bruit en question. Je me lève finalement pour aller à la salle de bain. En sortant de la chambre, je constate que le bruit vient du salon, un genre de grincement régulier. Je me dirige donc vers le salon et dans le milieu de la place, je vois un vieil homme en train de se bercer sur une chaise berçante. À noter ici que je n'ai pas de chaise berçante. Il me regarde, passif, et continue de se bercer. Bien que j'avais vraiment très peur, ce n'est pas la première fois que j'étais témoin d'un phénomène comme ça. Alors j'ai continué mon chemin et je suis allé à la salle de bain, puis retourné au lit. Le lendemain, j'ai demandé à la voisine d'en bas si elle connaissait l'ancien locataire de mon appartement. Elle m'a répondu « Oui, c'était M. Gagnon, il habitait tout seul. Un bien bon monsieur, très gentil. Il se faisait vieux. Ils l'ont retrouvé mort dans son sommeil, dans sa chaise berçante. » Merci infiniment Simon de nous avoir écrit, c'est un excellent témoignage. Et, oh, j'ai le téléphone qui sonne, je prends l'appel à l'instant, donnez-moi juste une seconde, je transfère ça. Oui, bonsoir, merci d'avoir appelé Fréquence d'Outre-Tombe, à qui je parle?
À Valérie.
Bonjour Valérie, vous nous appelez de quel endroit?
Lac-Beauport.
Lac-Beauport, super, excellent. Puis Valérie, j'imagine que tu es une fidèle auditrice de Fréquence d'Outre-Tombe?
Oui.
Super, excellent. Ben, merci d'appeler. J'imagine que tu as quelque chose à nous raconter.
Oui, oui, j'ai une petite histoire.
Super, ben vas-y, on t'écoute.
Bon, mes parents ont acheté, quand j'avais à peu près 20 ans, une maison dans les cantons de l'Est, proche de Bromont ou Lac-Brome, que ça s'appelle. Une vieille maison là qui avait genre 150 ans avec des grosses planches de bois là qui a des bruits partout puis des deux escaliers fait que tu on dirait que tu entendais des bruits peu importe où tu étais dans la maison. Puis il y a un soir, j'étais allée avec mon ancien chum coucher là. Puis là on dormait puis c'était la nuit donc il y avait pas tu sais évidemment il y a pas de lumière de rue parce que tu es en campagne, tu es dans un rang puis pas de lumière de la lune, les toiles baissées, donc il faisait vraiment, vraiment noir. Là. Fait que là, mon chum, il me dit, je vais aller aux toilettes. Fait que là, je fais, ah, OK, ben je vais en profiter, je vais y aller avec toi, parce que je suis vraiment peureuse, fait que je voulais pas aller me lever la nuit toute seule puis aller faire pipi. Donc, fait que là, je me lève, puis là, je le vois qu'il se lève, fait que là, je dis, Patrick, attends-moi. Fait que là, j'essaye, je tape sur l'épaule pour qu'il m'attende, pour que je lui prenne le bras, pour me rendre jusqu'à la toilette. Puis là, il continuait. Fait que là, j'étais là, ben voyons, Patrick. Fait que là, je retape sur l'épaule, je leur manque encore. Fait que là, je dis, ben là, Patrick, tu peux-tu m'attendre? J'aimerais ça te prendre le bras pour me rendre jusqu'à la salle de bain. J'étais rendue là, à la porte de la chambre, là, qui était peut-être 8 pieds du lit. Là. Fait que là, je l'entends, il me dit, c'est parce que je suis pas encore sortie du lit, je suis encore assis. Là, j'étais là, quoi? Fait que moi, j'avais suivi quelqu'un, puis je me rappelle, en plus, il y avait pas de tête. Je pensais que sa tête était comme penchée par en avant, puis que, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait, puis je me disais, qu'est-ce qu'il fait? Je voyais juste son dos puis son bras. Fait que j'avais suivi quelqu'un ou quelque chose jusqu'à la porte de la chambre pour me rendre compte finalement que c'était pas mon chum qui lui était resté au lit. Fait que là, il m'avait dit, t'as-tu vu qu'est-ce que j'ai vu? Puis là, moi, peureuse que je suis, j'ai ouvert la lumière, j'ai dit oh, on n'en parle pas, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Fait que là, lui, il trouvait ça drôle, mais moi, je riais pas pantoute. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça mon histoire.
Cool, c'est vraiment un cool témoignage ça, Valérie. C'est vraiment sympathique de ta part de l'avoir partagé avec nous.
Merci. Merci, mais c'est le fun, j'aime bien ton émission.
Cool, ben merci, puis continue d'écouter.
Merci.
Ça marche, à la prochaine, bye. Bye. On remercie donc Valérie d'avoir appelé Fréquence d'Outre-Tombe et c'est l'heure de notre histoire de cette semaine. L'histoire que je vous raconte cette semaine se passe à Charlebourg, ou du moins s'est passée à Charlebourg. C'est une histoire qui est relativement récente. On parle d'une famille de 5 personnes, donc Alain et Nadine, qui sont mariés et ont 3 enfants. 2 jeunes filles de 3 et 5 ans, Alissa et Sandrine, ainsi qu'un jeune garçon de 7 ans qui lui s'appelle Brian. Donc ils ont leur maison à Charlebourg depuis quelques années, puis... Une journée, ils visitent un antiquaire, puis trouvent un beau grand meuble, un genre de meuble qu'Alain cherchait depuis longtemps, là, une belle grande armoire, toute taillée, qui semble toute taillée d'une seule pièce de bois, toute travaillée, une magnifique grande armoire, bref, qui peut devenir un meuble ou une pièce centrale, là, pour le salon. Donc, ils achètent le meuble, qui est probablement bicentenaire selon ses... selon ce que lui peut remarquer. Puis, il rentre ça dans la maison, tout va bien. Ça aura pris beaucoup de temps avant qu'il fasse le lien entre le meuble et le reste des événements, mais à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à aller un peu moins bien pour la famille en question. Les enfants ont commencé à être souvent malades. Ils se levaient souvent le matin avec de la fièvre, se plaignaient souvent de maux de tête, de maux de gorge. Puis, un matin, lui, Brian se lève avec de la fièvre, sa mère prend sa température, il fait presque 40 de fièvre. Puis Brian dit que dans la nuit, il se réveille puis il voit une femme dans sa chambre. Puis que la femme lui dit qu'elle va brûler la maison. Donc lui ramène cette histoire-là souvent à sa mère qui voit la femme, une madame dans la maison. Puis à un moment donné, ces deux filles dorment ensemble dans la même chambre, dans des lits superposés. Puis ces deux filles, Alissa et Sandrine, commencent à dire la même chose. On voit une femme, il y a une madame qui vient nous visiter la nuit. Puis là, la mère Nadine, elle demande aux enfants, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle demande à ses filles, qu'est-ce qu'elle vous dit, la madame? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ben elle nous dit qu'elle va brûler la maison. Puis là, ils commencent à avoir peur du feu, en plus d'être souvent malades. Puis un matin, c'est ça, une nuit en fait, Alissa se réveille, puis là, elle est malade, elle a vomi dans son lit. Puis elle raconte à sa mère qu'elle a encore vu la vieille dame, elle l'appelle la vieille dame avec les yeux rouges. Donc une nuit en particulier, pas très longtemps après l'achat de cette fameuse, grand meuble, grande bibliothèque, c'est Brian qui se réveille dans le milieu de la nuit. Puis ses parents de leur chambre à coucher peuvent l'entendre crier. Là, évidemment, son père se lève et va à la course dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait crier, tu sais? Il dit, il y a une vieille madame qui me regarde. La vieille madame est là, puis elle me regarde. Elle dit, elle se cache derrière la porte. Puis là, évidemment, son père regarde derrière la porte de la chambre pour constater qu'il n'y a personne. Puis lui, le jeune, est presque terrorisé, terrifié. Là, il dit « Non, je vais aller dormir avec vous. Je veux pas rester tout seul ici. Je veux pas rester tout seul ici. » Puis comme c'est une période où il fait encore de la fièvre, il est malade. Donc son père, il dit « Écoute, c'est un cauchemar. T'as fait un cauchemar. Faut pas que tu paniques avec ça. Mais bon, viens avec nous. Tu vas pouvoir dormir dans notre chambre pour cette nuit, tu sais. » Donc, s'endort entre ses parents, dans le lit de ses parents. Puis un peu plus tard dans la nuit, entendent cette fois-là les deux filles qui se mettent à crier, les deux petites filles dans leur chambre un peu plus loin qui se mettent à crier. Là, c'est leur mère qui se lève cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis la même chose, ils disent qu'il y avait une vieille dame qui regardait, une vieille dame avec des yeux rouges, eux disent des yeux rouges, puis elle dit, elle essayait de mettre le feu dans la chambre, elle a voulu mettre le feu, elle avait du feu, elle voulait brûler la chambre. Puis là, les deux filles sont en panique. Donc, bon, essayez de les calmer. Écoute, vous avez fait un cauchemar, mais là, les deux disent la même chose. Fait que c'est embêtant de dire que c'est un cauchemar. Bref, ils disent, il n'y a pas de madame ici, regardez, ils font le tour de la chambre. Les deux filles finissent par se rendormir. Puis, un peu plus tard, là, en fait, le lendemain, Nadine, la mère, descend au sous-sol pour faire son lavage. Donc, laveuse sécheuse est au sous-sol. Sous-sol qui est semi-fini, là. C'est plutôt un plancher de béton avec, bon, les murs de béton, puis sur le bois. Donc, elle descend faire son lavage. C'est l'été, puis là, elle constate qu'il fait très chaud, puis souvent dans le sous-sol, et ça devrait être plutôt frais, en fait, vu que comme c'est au-dessus au-dessous du sol. Là, elle marche, puis elle voit une lueur au fond du sous-sol, donc elle va voir. Puis il y a la petite, un genre de petite fournaise d'appoint qui est à pleine capacité, qui roule, qui marche comme si c'était une froide journée d'hiver. Donc elle l'arrête. Elle ferme toutes les switches, tout ça, les clapets, l'air. Puis là, ça demande merde. Qui a parti la fournaise, tu sais, c'est dans le milieu de l'été. On est dans le milieu de l'été, les enfants font déjà de la fièvre. Donc là, elle se retourne de bord. Puis comme elle regarde au loin, elle voit les escaliers qui remontent le sol. Puis elle voit une silhouette quand elle se retourne. Donc une silhouette en train de monter l'escalier. De loin, dans le noir, dans le sous-sol, tout ce qu'elle est capable de constater, c'est que c'est une figure qui semble une figure féminine avec des vêtements tout noirs, très amples, qui se déplace ou qui marche comme une personne ou une femme qui serait âgée. Donc elle lui crie après, hey, hey, hey! Puis quand elle est rendue en haut des marches, elle se retourne vers elle. Puis là, elle peut voir de loin, comme ça, elle peut pas voir son visage, mais elle peut voir des lueurs comme orangé dans ses yeux. On peut juste voir la silhouette noire avec deux yeux comme rouge-orangé qui la regarde. Donc, elle commence à courir après elle. Elle dit, merde, mes filles sont en haut, tu sais. Puis là, la vieille femme sort du sous-sol, quitte le sous-sol, donc en haut des marches, entre dans la maison, puis referme la porte derrière elle. Donc, Nadine monte l'escalier au pas de course. Puis comme elle vient pour essayer de sortir du sol, mais la porte est barrée, elle peut pas sortir tout de suite. Puis là, elle entend ses filles crier. Ah! Elle essaye, fonce dans la porte, boum, boum, boum. Puis finalement, réussit à défoncer la porte. La porte ouvre, grande ouverte. Là, elle réussit à sortir. Elle réussit à aller voir ses filles qui sont dans le salon, en train de crier, puis en train de paniquer. Évidemment, les filles sont toutes seules dans le salon. Il n'y a pas de vieille dame ou il n'y a pas de personne d'autre dans le salon avec elles. Mais ce qu'elle est capable de remarquer, c'est que les deux filles pointent le meuble. Elles sont encore en panique, puis pleurent, puis pointent le meuble, la grande bibliothèque en bois qu'ils ont acheté il y a quelques jours. Puis là, elles remarquent sur le côté, il y a des traces de comme de brûlure, comme si le meuble avait brûlé ou comme s'il était un petit peu cendré, puis il y a même un petit peu de cendre. Il y a même des cendres au sol qu'elle voit. Elle se demande pourquoi, d'où ça vient, tu sais. Là, bon, elle essaie de tout mettre les événements ensemble, elle essaie de se raisonner un peu, de comprendre ce qui se passe. Puis le soir, elle décide de raconter tout ça à son mari, évidemment, à Alain. Là, elle l'assoit, elle dit, écoute, les filles ont dit avoir vu une vieille dame dans la maison. Elle dit, notre fils dit la même chose. Elle dit, cet après-midi, j'étais dans le sous-sol. Je l'ai vu, elle explique ce qui s'est passé. Puis là, elle lui explique les traces de brûlure sur le meuble, elle lui montre, tu sais. Puis là, Alain lui, regarde ses filles, regarde sa femme, tu sais. Là, il pense que c'est des histoires qu'elle raconte, tu sais, que c'est ses filles qui auraient comme mis le feu pour essayer soit d'attirer l'attention ou bon, pour quelques raisons. Puis là, lui, il se fâche même presque, il est vraiment tanné d'entendre parler de cette histoire-là. Il est tanné d'entendre que ses enfants sont tout le temps malades, il est tanné d'entendre ces histoires-là de sorcières-là. Il dit, vous commencez à m'énerver avec vos histoires de sorcières. Puis il dit, là, je veux plus en entendre parler. C'est trop. Il dit, vous m'énervez. Mais là, lui, deux jours plus tard, doit partir en voyage d'affaires. De ce que j'ai lu là, dans la documentation, lui, répare des compresseurs à air. Donc, bon, dans des édifices ou dans des boîtes là, industrielles. Puis il y a un client qui est plutôt dans le bas du fleuve. Donc, il doit faire la route une journée. Il est allé là-bas, commencer à s'installer, il doit dormir là-bas puis revenir probablement juste le lendemain. Donc là, il demande à son frère de passer la nuit chez lui, parce que là, c'est, bon, sa femme a capote avec la sorcière, ses filles capotent avec la sorcière, son gars capote avec la sorcière. Là, il dit, regarde, je vais faire venir mon frère, il va pouvoir passer la nuit avec vous, tout le monde va se sentir plus en sécurité. Puis là, il fait confiance à son frère Claude pour pas justement participer à la panique, là, parce qu'il est plutôt quelqu'un de terre à terre, puis de s'est posé comme lui. Il explique le cas, de la sorcière ou de la vieille dame, bref. Donc là, ce qu'il essaie de faire, c'est que Claude va dormir dans la chambre avec les deux filles. Lui, il les amène un divan-lit dans la chambre, lui va être quand même confortable. Puis le petit gars, Brian, va dormir avec sa mère dans le lit de ses parents. Donc là, tout le monde a un adulte avec lui dans sa chambre. Tout le monde est content, tout le monde devrait se sentir en sécurité. Puis dans le milieu de la nuit, Nadine se réveille en sursaut parce qu'elle entend ses filles crier du bout du couloir. Puis au loin, elle peut entendre Claude qui crie « Nadine, Nadine, sors de la maison! Appelle la police, puis sors de la maison! » Puis elle crie « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? » Avant, là, il crie « Il y a quelqu'un dans la maison! Appelle la police, puis sors de la maison! Il y a quelqu'un! » Donc, elle prend le petit Brian par le bras, court chercher le téléphone, le genre de combiné de téléphone sans fil, puis sort à l'extérieur de la maison. De là, elle est à l'extérieur de la maison, elle appelle la police, elle dit « Là, venez chez nous, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma maison, qui a attaqué, ma famille. » Au bout de 2-3 minutes, finalement, Claude sort de la maison avec ses deux filles. Donc, tout le monde est à l'extérieur de la maison, tout le monde est sain et sauf, mais les deux filles pleurent, sont en crise de panique, ils pleurent. Puis là, lui, Claude a la face de quelqu'un qui vient de sortir une boîte à surprise. Puis lui, il raconte, il dit « Écoute, elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. » Il dit « Ben, je me suis fait réveiller par les filles, elle criait, elle était en panique, puis elle pointait du doigt vers le coin de la chambre, proche de la porte. » Fait que là, il dit « J'ai regardé, je me suis retourné, j'ai regardé, puis il y avait vraiment quelqu'un dans la chambre, j'ai pu la voir, il y avait une femme, toute habillée en noir, dans la chambre. » Il dit « Là, j'ai fait un saut, je me suis avancé vers elle, je dis « Hey, qu'est-ce que vous faites chez nous, sortez d'ici. » Puis là, il dit « J'ai vu son visage, il dit, elle avait l'air tellement vieille, il dit, on aurait dit qu'elle avait 1000 ans. » Puis là, quand je me suis approché d'elle pour, la maîtriser ou je voulais la pousser dehors, tu sais. Il dit, elle m'a poussé, mais elle m'a poussé tellement fort, je suis revolé jusqu'à l'autre bout de la chambre. Puis il dit, là, elle a attrapé Sandrine par le bras, puis elle le tirait pour l'amener avec elle. Puis là, il dit, j'ai dû me chamailler avec elle, essayer de tirer sur son bras. Puis il dit, j'ai frappé jusqu'à ce qu'elle la lâche. Puis là, elle continuait à crier à Sandrine, « Je vais te faire payer! » Puis elle riait, la vieille femme, la vieille sorcière, elle riait, puis elle criait, « Je vais te faire payer! » Puis à chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche pour rire, il dit, « Je pouvais voir ses dents noires toutes pourries, puis je pouvais sentir son haleine. » Il dit, « C'était dégoûtant. » Il dit, « Je l'ai frappé plusieurs fois, puis là, finalement, elle a lâché la petite, puis elle s'est sauvée, mais toujours en riant. » Donc là, quand la police arrive... ils expliquent, en épargnant quelques détails, évidemment, là, ils expliquent qu'il y avait une dame dans la maison qui criait puis qui essayait d'attraper la jeune Sandrine. Donc, la police fait le tour de la maison, ils font une inspection, ils voient aucune trace d'entrée par effraction, nulle part, ils ont trouvé personne, même en regardant dans tous les raccoins, dans le sous-sol, à l'étage, au rez-de-chaussée. Donc, finalement, tout le monde retourne dormir, barre les portes comme il faut. Puis, évidemment, personne n'a fermé les yeux là, cette nuit-là. Personne n'a dormi du reste de la nuit. Le lendemain soir, il décide, évidemment, d'en parler à Alain. Lui, il est tanné, il est fâché. Puis là, de toute cette histoire de sorcière-là. Puis là, même son frère est rendu qu'il y croit. Là, il est comme un peu fatigué de tout ça, il est tanné. Puis dans un épisode un peu de panique ou de colère, il se met à crier un peu dans le vide là, dans sa maison. Il dit « Maudite sorcière, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi-en à moi. » Il dit « Laisse mes enfants et ma femme tranquille, puis prends-toi-en à moi. » Mauvaise idée, hein? Faut jamais mettre au défi une sorcière ou une entité quelconque. Donc lui, il crie ça comme ça au vol dans la maison. Il dit « Cette maudite histoire-là commence vraiment à le tanner. » Puis là, c'est là qu'il commence à penser. Il dit « Merde, cette histoire-là a commencé depuis qu'on a rentré ce maudit meuble-là, la grosse bibliothèque. » Puis là, il pense aux traces de cendre que sa femme avait vues, tout ça. Puis là, il retourne voir la bibliothèque pour le fun, ou plutôt la grande armoire. Puis là, il remarque que la marque de brûlure qu'il avait remarquée justement quelques jours avant a grandi et maintenant presque toute la hauteur du meuble, puis même une partie de la porte en avant du meuble, puis il commence à remarquer que de l'autre côté, il y a une autre trace comme de brûlure, puis il y a encore des cendres un peu partout autour du meuble en tant que tel. Donc évidemment, il commence à se demander s'ils vont pas se débarrasser du meuble, tu sais, puis là, il se dit, ouais, je pense que ça va être ça, je pense que c'est ça qu'on va faire. Donc le lendemain, il va travailler, quand même, puis quand il revient le soir, il rentre dans la maison, il y a quelqu'un, allô, je suis là, je suis revenu. Là, il n'y a pas de réponse, mais il entend des sons qui viennent, qui proviennent du salon. Là, il tend l'oreille comme il faut. Il entend des crépitements comme de flammes, puis des rires. Là, il prend panique un peu, il se dépêche d'aller voir au salon, voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, quand il arrive dans le salon, il constate que la grosse armoire dans le milieu du salon est en feu. Le feu est pris du bas de l'armoire jusqu'au plafond, puis la fameuse vieille dame ou la vieille sorcière est là, elle se tient à peu près un mètre immobile, elle regarde vers le feu, elle regarde le foyer ou l'armoire en feu, puis elle est fixée là-dedans. Puis il peut voir quelque chose dans les flammes, les portes sont en train de brûler, puis ça fesse. Puis il voit comme que quelque chose dans l'armoire que la sorcière semble regarder fixement, puis elle rit. Il est pas capable de voir ou de dire exactement c'est quoi, il est pas capable de discerner exactement ce que c'est. Donc là, sort le sa torpeur, court à la cuisine, ramasse l'extincteur, revient avec l'extincteur en main. Puis là, il peut constater qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de cendres, il n'y a rien. L'armoire semble même intacte. La sorcière ou la vieille dame qu'il croyait avoir vue est pas là. Là, il se demande, il dit « Merde, c'est moi qui est en train de devenir fou en plus là, par-dessus cette histoire-là, tu sais. » Puis il se rappelle qu'il avait comme vu quelque chose dans l'armoire qui brûlait. C'est qu'il ouvre les portes de l'armoire. Puis à l'intérieur, là où il y avait le feu, là où il voyait le feu, puis bon, cet objet qui brûlait quelques secondes avant, il voit un tas de cendres. Un tas de cendres comme un objet brûlé. Là, il réalise que c'est le corps d'un enfant. Donc, il reste juste les os, puis la chair brûlée, calcinée. L'odeur est horrible, puis lui donne immédiatement des hauts le cœur. C'est là que Nadine entre dans la maison. Elle était dehors dans la cour arrière avec les petits. Elle dit « Ah, t'es là? T'as-tu vu Sandrine? Ça fait 10 minutes que je la cherche, je la trouve pas nulle. » Puis la remarque, elle aussi, tu sais, le corps de l'enfant brûlé dans le fond de l'armoire. Donc l'enquête, pour expliquer tout ce qui s'est passé, aura duré presque 2 ans. Les parents ont été considérés comme suspects, ils ont été interrogés plusieurs fois, mais bref, n'ont jamais été accusés officiellement. Puis, ben évidemment, Alain, avec l'aide de son ami, de son frère, Claude, sont allés porter le meuble au dépotoir, puis une fois rendus là-bas, ont pris soin de le brûler avec du gaz, ils l'ont mis en feu, pour être sûr que jamais personne d'autre allait se retrouver avec les mêmes problèmes qu'eux ont eu, tu sais. Puis, à partir de ce jour-là, la jeune Alyssa et Brian, qu'on va appeler les survivants, ben, ont plus jamais reparlé de la sorcière. Puis, ils ont arrêté d'être malades, même comme ça avait été le cas au début de l'histoire. Hein. Donc, la morale de l'histoire, c'est d'écouter donc vos enfants quand ils vous racontent quelque chose, faites-leur confiance un peu. Mais surtout, celle-là, faut que vous l'appreniez. Ne provoquez jamais, au grand jamais, une sorcière ou un fantôme ou une entité quelconque. Alain, dans notre cas, a joué avec le feu, a fini par se brûler. Il doit le regretter aujourd'hui. Je mettrai même ma main au feu qui doit brûler dans la vie pour pouvoir revenir en arrière. Et c'est ce qui met fin à cette édition de Fréquence d'Outre-Tombe. Merci d'avoir écouté, merci de nous avoir appelé, merci de nous avoir écrit. Je vous rappelle, outretombe.ckrl@gmail.com pour m'écrire si vous voulez que votre témoignage s'entende à la radio la semaine prochaine. Et on se quitte sur une pièce musicale d'un petit groupe de musique underground de Pennsylvanie intitulé ou appelé Coffin Spell, la thématique d'horreur justement. On écoute ici un petit rock'n'roll d'une minute trente, Suspicion of Possession, qui parle de possession. C'était Fréquence d'Outre-Tombe à CKRL 89.1. Don't cover the frost. There go my fingers.
business back with no bed. Can't look at no mirror, can't look at the cross. Can't look out my window, it's all covered in frost. Can't wiggle my fingers, can't wiggle my toes.